Alors, un temps de partage de l'écriture un peu particulier, puisque je vous ai proposé dimanche dernier d'utiliser la semaine pour lire le Cantique des Cantiques et de prendre un verset. Alors, on vous a donné des cartes pour ceux qui les ont, qui étaient là. Et puis des petites cartes comme ça. Hein, et puis je vous ai demandé d'écrire un verset du Cantique des Cantiques qui vous avait marqué ou qui a du sens. Donc ce matin, ceux qui étaient là dimanche dernier, vous avez dû écrire ce verset sur une carte. Et puis maintenant que vous l'avez fait. Je vais vous solliciter au cours de ce temps de partage pour que vous lisiez le verset que vous avez choisi et que vous disiez, il y avait une petite phrase à rajouter pour dire pourquoi vous l'avez choisi. Alors d'où m'est venu ce temps de partage sur le Cantique des Cantiques? En fait, je pensais il y a une quinzaine de jours, un peu plus de 15 jours, au temps que je passais à mon travail. Et puis, à mon travail, j'avais constaté quelque chose. Je vous explique un peu la genèse de comment les choses arrivent parfois. Lorsque j'étais à mon travail avec les patientes et que je déjeunais avec elles 2 à 3 fois par semaine, quand c'était l'hiver, il y avait des choses que je ne remarquais pas. Et puis, quand le printemps arrivait, que la chaleur arrivait, les épaules se découvraient, les tenues changeaient. Et puis, à ce moment-là, j'avais parfois des surprises, des étonnements. C'est que je voyais des femmes avec des tatouages sur les épaules, plus ou moins importants, plus ou moins bien faits aussi, parfois des tatouages. Et ma question, c'était toujours de me dire, je n'avais pas de jugement moral là-dessus, mais je me disais toujours, est-ce que des personnes qui se sont fait tatouer ont des regrets après. Parfois, la réussite du tatouage. Et puis, je réfléchissais à ça, et puis, vous savez, comment l'esprit vagabonde. Et à un moment donné, je me disais, mais je me rappelle d'églises où les personnes tatouées étaient pointées du doigt comme quelque chose qui n'était pas dans la pensée de Dieu, etc. Et puis m'est venu ce verset du Cantique des Cantiques qui dit ceci, je vais le retrouver, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Et je me suis dit, en pensant à quelqu'un que je connais, qui est chrétienne, et qui porte des choses sur sa peau, je me disais que c'est pas ça qui est important. C'est pas les marques que l'on porte sur sa peau. Ce qui est important, c'est le sceau que l'on a sur le cœur. C'est le sceau que l'on a sur son bras. Et en fait, quand dans le Cantique des Cantiques, il est écrit « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras », ça parle de deux choses. Un sceau qui est sur la zone des sentiments, l'espace de l'amour, quel est le sceau qui est sur cet espace-là dans ma vie? Et sur le bras, parce que le bras, c'est le membre qui agit, qui travaille, qui est en action, qui me met en action. Est-ce que le sceau de Dieu et son amour, puisqu'il s'agit de cela, est-ce que ce sceau-là est sur mon cœur, marque mon cœur et mon âme? Et sur mon bras, dans tout ce que je fais, ce en quoi j'agis. C'est parti de là. Et tout à coup, je suis revenu au Cantique des Cantiques, et il m'a semblé bon de pouvoir parcourir ce livre un peu particulier. Alors cette semaine, j'étais en réunion œcuménique, il y a quelqu'un de l'Église qui m'a dit, dis donc, tu nous as engagés dans quelque chose d'osé. Mais je dis, c'est pas osé, c'est le Cantique des Cantiques. Ouais, je sais, c'est dimanche matin, l'humour est un petit peu au rabais. Mais il me disait, c'est osé ce livre-là. Ça dit des choses quand même un peu sensuelles, pour pas dire sexuelles, pour les chrétiens quand même. Hein? Ouais, c'est vrai. Le Cantique des Cantiques parle de l'amour d'une manière très poétique, mais aussi très crue. Et c'est peut-être pour ça que dans notre culture, je dirais, chrétienne et occidentale, on regarde le Cantique des Cantiques de manière très pudibonde, en se disant, bon, allons plutôt dans Romains ou Éphésiens. Hein. Au moins, là, il n'est pas parlé de saints, de femmes, de corps, de peau, d'amour, hein, d'amour physique. Non. Là, dans Romains, c'est très peu présent, finalement. Ouais, mais Dieu parle de l'amour dans toute sa dimension, dans l'être tout entier. Et l'amour physique, le mariage, l'union de l'homme et de la femme sont dans la Bible. Une image que Dieu utilise à répétition pour parler de son alliance avec l'homme. Et finalement, dans Éphésiens, dans Galates, il est parlé du corps tout entier. Est-ce que nous pouvons concevoir que l'amour de Dieu est un amour total, complet ? Voilà comment est venue cette idée de parcourir le Cantique des Cantiques. Ce Cantique des Cantiques a été intégré au canon de la Bible juive à compter quasiment de 137, je crois, par un rabbin que j'aime beaucoup quand j'ai un peu étudié le judaïsme, c'est Rabbi Akiba, qui, au concile de Jamnia, qui arrêtait le canon des Écritures en 137. Vous voyez, il y a le concile juif qui a dit, bon, là, on arrête ce qui appartient à l'Écriture révélée. Et Rabbi Akiba a dit, le Cantique des Cantiques fait partie. En hébreu, on dit, c'est un livre qui souille les mains. C'est-à-dire, non pas qu'il est sale, mais c'est qu'il est tellement saint que la main de l'homme ne peut pas le toucher. Et donc, les livres qui souillent les mains, c'est les livres qu'on considère comme venant de Dieu. Et en 137, Rabbi Akiba a proclamé que le Cantique des Cantiques était un livre saint, parce qu'il parle de l'amour. Alors, je vais peut-être vous demander un peu d'attention, mais de vous préparer aussi. Vous avez eu vos cartes ? Qui est venu avec sa carte ? Oula ! Un. Il y en a... Je vois pas s'il y a des mains qui sont levées ou abaissées. Voilà. Alors, voilà, c'est des petites cartes que j'ai distribuées. Vous avez pu venir avec votre propre carte, hein, etc. Mettez pas encore dans la boîte. Hein, Ah ouais, parce que si j'interroge... Il y a une interrogation, hein, orale, pas écrite, mais... mais je vais vous solliciter pour, au cours de ce partage, que vous disiez pourquoi vous avez choisi tel ou tel verset. Alors, comme je suis prévoyant, je me disais, moi, la mienne, j'ai découvert que c'était des cartes à colorier. Donc, cette semaine, à mon bureau, je me suis amusé à commencer à colorier ma carte. Donc, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais quand on la reprendra, vous pourrez la colorier éventuellement. Et donc, j'ai choisi mon verset. Mais comme je suis un petit peu prévoyant, j'en ai rajouté quelques-unes pour que ceux qui ne l'ont pas forcément amené puissent éventuellement repartir avec une carte. D'accord ? Non. Et comme je suis aussi prévoyant, je me dis c'est un culte interactif. Donc vous allez prendre la parole et dire... Alors je suis allé, j'ai parcouru tout l'Orient pour trouver un micro sans fil, parce que nos micros sont tous avec des fils, et donc c'est difficile de... Donc il y a un micro sans fil qui va être proposé. Qui est-ce que je pourrais... Rappelle-moi ton prénom. Cassidy. Est-ce que tu voudrais être porteuse de micro, Cassidy ? Ouais ? Bon, tu peux donner... Tiens, tu vas voir Pascal, il va te donner un micro. Voilà. Et dès qu'il y aura une main qui se lève, tu retournes à ta place, hein, tu peux t'asseoir. Et dès qu'on demandera si quelqu'un veut lire le verset qu'il a retenu, c'est toi qui es chargé de lui donner la parole. Ça ira, Cassidy ? Ouais, merci. Je te remercie beaucoup. Hein. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais vous projeter. Ah, Voilà, je vous ai projeté, commencé un petit montage sur le Cantique des Cantiques. Cette photo-là, vous la connaissez, c'est une reproduction. Alors ça, c'est pour aussi ceux qui écouteront éventuellement cette intervention sur le site de l'Église, égliseapostolique.je-ne-sais-plus-trop-quoi, mais en tout cas, tapez Église apostolique Kévin et vous tombez sur le site de l'Église, et Juliette se chargera de mettre cette intervention, et vos voix aussi, puisque vous parlerez sur le site. Et en fait, j'ai choisi cette peinture. Alors, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est Gustav Klimt et c'est le baiser. Alors, je ne l'ai pas choisi par hasard, tout simplement parce que je cherchais une illustration. Et il se trouve qu'un auteur qui a travaillé sur le Cantique des Cantiques a illustré son livre avec le baiser de Klimt. Et j'ai trouvé ça tellement approprié. Moi, j'aime beaucoup Klimt. C'est une peinture lumineuse, pleine de tendresse, un peu art déco, c'est la période, mais je trouve que c'est une belle peinture qui parle de l'amour, on pourrait presque dire entre la Sulamite et le berger. Donc voilà, c'est le baiser de Klimt. Photo suivante, diapo suivante. En fait, la question de la lecture du Cantique des Cantiques, c'est de savoir si c'est une histoire qui parle de l'amour d'un homme et d'une femme avec une tierce personne qui essaye de s'immiscer et d'empêcher cet amour, ou si c'est ce qu'on appelle une allégorie qui parle de l'amour de Dieu pour son peuple, de Dieu pour le croyant, qu'il soit juif dans l'Ancienne Alliance ou qu'il soit chrétien. Et en fait, j'avais lu cette phrase qui dit ceci: entre ceux qui exilent Dieu du désir amoureux et ceux qui s'exilent de leur amour pour trouver Dieu, y aurait-il place pour une voie qui réconcilie le ciel et la terre en éveillant la relation entre l'homme et la femme à l'invisible promesse qui la fonde? Alors, c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que parfois on se dit, pour vivre l'amour et vivre le désir amoureux, il ne faut pas s'occuper de Dieu parce qu'il prend trop de place. Et puis il y a ceux qui disent, si on veut aimer Dieu, il vaut mieux éviter, comme le dit Paul, d'avoir une relation amoureuse avec une femme, de construire une famille, etc. Et la question qui se posait pour quelqu'un, c'est est-ce qu'il y a une place pour une voie qui réconcilie les deux? Et moi, j'y crois. Je crois à cela dans la mesure où, quelque part, dans le Notre Père, il est dit que ta gloire soit sur la terre comme au ciel. C'est un verset qui est simple, mais qui dit ce qui est vrai dans le ciel, spirituellement, fait que ça soit vrai aussi sur cette terre. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que la relation amoureuse homme et femme ou familiale, tout ce qui est de l'ordre de l'amour, je dirais, trouve son essence aussi dans cet amour qui vient du ciel, qui remplit nos vies et qui peut se partager. Diapo suivante. Alors, je vous avais dit la semaine dernière qu'en fait, longtemps, le Cantique des Cantiques a été interprété comme un livre, je dirais, qui parlait d'un récit, d'une histoire. En fait, le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim en hébreu, ça a été longtemps considéré comme un chant, et notamment un chant, et dedans, vous avez peut-être vu des textes un petit peu particuliers, des versets particuliers. En fait, c'est un livre qui comprend aussi des comptines ou des chants. On va le découvrir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Je ne comprends pas ce verset-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais en fait, il y a des parties de chants qui sont très connues et qu'on chantait au mariage. Donc, Jacobi, qui est un pasteur zurichois, il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent de Suisse. Hein. Si. C'est en 1771, il a introduit quelque chose de nouveau, c'est que juste à présent, on était dans une logique de Salomon qui était au centre, qui est le personnage central. D'ailleurs, le premier verset parle de chant de Salomon. Puis j'étais avec Hugh, qui était là dimanche dernier, et Hugh m'a ouvert sa Bible en anglais. Et en fait, en anglais, le Cantique des Cantiques, c'est les chants de Salomon. Donc, c'est centré sur Salomon. Donc, jusqu'en 1771, l'idée, c'était qu'en fait, c'est une histoire d'amour entre Salomon et une Sunamite. Sauf que Jacobi, en 1771, en travaillant le texte, a exploré, il s'est dit, mais non, c'est quelque chose de différent. L'histoire n'est pas une histoire centrée sur Salomon et une sunamite, mais entre une sulamite, qui aime un berger, mais qui est enlevée par Salomon, qui veut l'intégrer dans son harem, etc. Et donc, il donne une autre lecture. Et à partir de là, il y a une lecture allégorique qui va être faite, à savoir, est-ce que le berger représente Dieu qui aime la sulamite, qui est la représentation du croyant que nous sommes, ou qu'étaient les Juifs. Et puis, est-ce que Salomon n'est pas le tentateur qui vient pour essayer d'empêcher cet amour véritable de se vivre pleinement ? Donc, c'est une idée qui a fait son chemin. Et maintenant, la lecture, c'est vrai qu'on voit que Salomon est présenté comme le pouvoir royal qui fait rechercher pour son harem les plus belles filles du pays. Et puis, il y en a des émissaires, parce qu'on ne voit pas Salomon dans la litière qui se promène, etc., mais simplement les émissaires qui viennent capturer, ou en tout cas inviter de manière un peu ferme les jeunes filles, les belles jeunes filles, à rejoindre le harem de Salomon. Et puis, comment ce texte parle ensuite du bien-aimé qui finit par rejoindre la Sulamite et la ramener à Sulem pour y vivre leur vie choisie et leur amour choisi ensemble. On y va ? Cantique des Cantiques. Alors, en fait, on pourrait dire que c'est dans le judaïsme, comme aussi dans la foi chrétienne, un livre contestataire. Dans le judaïsme, il y a eu cette pensée-là. On se dit que le livre a vraisemblablement été écrit, je dirais, après le retour d'exil. C'est une lecture qui est très souvent faite à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, c'est-à-dire au moment où Israël retourne, le peuple juif retourne en Israël, et où vous avez Esdras, Néhémie qui sont en train de se battre contre la question du mariage mixte. Voyez ? Or, le mariage mixte était pour le clergé quelque chose de totalement déconseillé. Il fallait garder la pureté, etc. Mais il y avait ce retour dans la terre d'Israël et une royauté qui était un petit peu laxiste et qui faisait ce qu'elle voulait. C'est la représentation de Salomon. Et puis les mariages mixtes qui avaient tendance à être en opposition avec ce que Esdras, Néhémie et le clergé prenaient. Mais c'est aussi un livre qui parle de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dieu voulait une alliance forte et ferme avec le croyant et avec Israël. Alors, la conséquence, c'est que la femme dans le Cantique des Cantiques est au centre. Et c'est un livre révolutionnaire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que le Cantique des Cantiques, c'est le MeToo de l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire que c'est un livre entièrement consacré à une femme qui dit non. Non à la soumission, non à la présence du pouvoir qui est là pour dire « voilà ce que je veux, tu dois te soumettre ». Et en fait, c'est la femme, alors ici, il est utilisé le mot, elle devient et elle prend la place dans la co-humanité. C'est-à-dire que ce n'est plus une humanité d'homme, c'est dans le Cantique des Cantiques la femme qui dit « voilà ce que moi je veux ». C'est un livre révolutionnaire. Imaginez cela dans le pays d'Israël, une femme qui dit non et qui dit « voilà ce que je désire ». Elle devient la figure d'une espérance de changement pour la condition féminine, que ce soit à l'égard du patriarcat qui existait en Israël, c'est-à-dire que c'est les hommes qui décidaient. C'est révolutionnaire. Je pense que pour les rabbins, ça devait être compliqué de lire le Cantique des Cantiques. Et pourtant, quelqu'un me rappelait que le Cantique des Cantiques fait partie de ce qu'on appelle les mégilotes, c'est-à-dire les petits rouleaux dans la Bible juive. Et le Cantique des Cantiques est lu pendant les fêtes juives. Alors, je ne sais plus si c'est au moment de Soukhot, mais en tout cas, comme Ruth, c'est un petit rouleau. Et donc, c'est totalement intégré dans le culte. Mais ça ne devait pas être pratique pour les rabbins d'expliquer le sens du Cantique des Cantiques, qui est une femme qui dit « voilà ce que je veux ». Et puis c'est aussi un livre où la Sulamite refuse la soumission du roi. C'est pour ça que je disais, aujourd'hui, c'est le MeToo de notre Bible. Une femme qui dit, voilà ce que je veux pour moi. Et Dieu a posé ce livre-là dans l'Écriture afin que l'homme et la femme puissent ensemble vivre l'alliance avec Dieu. Alors, je vais peut-être demander à quelqu'un qui a choisi, puis on viendra sur cette diapo, quelqu'un qui a choisi un verset de l'Écriture, du Cantique des Cantiques, de me dire, alors Cassidy, t'es prêt ? Qui veut lire le verset qu'il ou elle a choisi du Cantique des Cantiques et nous dire pourquoi ? Ah, et soyez pas timide. Allez, Cassidy, c'est bon, il y a une main qui s'est élevée. Voilà, relève la main, voilà. Est-ce que le micro est ouvert ? Parle bien dans l'esquimo. Non ? Est-ce qu'il est toujours allumé ? Ouais ? Ah, oh. Il est peut-être trop loin ou bien ? Là, je n'ai pas essayé à distance. On va... Attends une seconde. J'ai essayé, je suis venu hier, j'ai installé, ça marchait. Alors, c'est peut-être la portée, normalement, la portée devrait. Ouais. C'est bon ? Et là, ça marche toujours ? Bon. Bah, juste une seconde. C'est bon. Ah voilà. Allez, vas-y.
Alors, c'est dans la version QN que j'ai fait ma lecture. Il m'a conduite dans son vignoble et au-dessus de moi, il fait flotter son étendard ou sa bannière, qui est l'amour. Alors j'ai rapproché cela aussitôt dans mon esprit à l'évangile de Jean, chapitre 15, où premièrement le Père, Dieu le Père, est désigné comme vigneron. Deuxièmement, les croyants sont constitutifs de la vigne en tant que sarment. Et troisièmement, objet de toute l'attention du vigneron qui prend soin de cette vigne en
D'accord. D'accord. Très bien. Merci, Jean-Louis. Alors, effectivement, c'est le texte qui parle de son amour sur moi est comme une bannière. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui a choisi ? Allez, Christiane. Vous passerez tous. Tous ceux qui ont levé la main, vous passerez. Christiane ? Dans l'esquimau. Devant. Quel verset ?
Alors, c'est le verset 1, au chapitre 3, je crois.
Vas-y.
Sur mon lit, pendant la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver. Je veux me lever. Parcourir la ville, les rues, les places, partir à la recherche de celui que j'aime.
D'accord. Pourquoi alors ce verset ?
Ça a plusieurs significations. La recherche permanente de Dieu. On n'est jamais arrivé, même après plus de 60 ans de vie avec le Seigneur. Il y a des périodes où c'est plus intense, même. Et puis aussi, en arrière-plan, quelque chose qui me concerne plus profondément, un syndrome de l'abandon. Et qui n'est pas complètement guéri, puisque de temps en temps, il y a des vagues. Voilà. Alors pour expliquer pourquoi, je peux ?
Oui, vas-y.
À 6 ans, j'ai eu la diphtérie. J'ai été guérie de la diphtérie. Mon frère, qui avait 9 ans, tellement occupé par leur propre douleur, je me suis senti un peu abandonné. Et des années après, pour des raisons familiales, j'ai dû voir une psychologue pour un certain sujet qui n'avait rien à voir.
Mmh.
Et en fait, c'était toujours cette période-là qui revenait.
Mmh.
Et je sais que dans certaines situations, ce syndrome d'abandon me revient.
Mmh.
Ce n'est pas permanent, mais de temps en temps.
Il y a cette fragilité.
Ouais.
D'accord.
Mais... vous aimez ce verset parce qu'en fait, c'est ça.
Mmh. Et après, il y a quand même le verset 4. C'est à peine avais-je dépassé les gardes dans ma recherche que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Même s'il y a des fragilités, en fait, on a fini par trouver celui que notre cœur aime. Moi, je trouve que c'est un verset fabuleux. Ouais. Merci. 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 Tiens, on va écouter Laurence. Tu as choisi un verset, lequel ? Bien des prédications. Tout est centré sur la question de l'amour de Dieu pour nous. Hein? Oui, alors cette formulation du verset 7, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne la submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser. C'est un verset qui, en fait, s'adresse à Salomon. Parce que quelques versets avant, il est dit qu'il offre à la Sulamite ses richesses, ses parures, etc. Or, il s'agit de quelqu'un qui aime un berger. Et on voit même avant ce verset-là qu'il y a le berger qui vient délivrer sa bien-aimée et elle retourne dans une condition qui est loin de celle de la richesse, etc. Et quand il dit « Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, on ne ferait que le mépriser », c'est un texte qui est pris dans le judaïsme comme un reproche fait à Salomon qui avait 80 femmes mais plusieurs centaines de maîtresses qui étaient riches et qui profitaient de sa richesse pour séduire. Or, quand l'amour véritable est là, on fait le choix. Il y a un cantique dans le foie à louange qui parle de ça. L'amour véritable vaut mieux que l'or, etc. etc. Ouais, très beau verset aussi. Alors, juste pour revenir à la question de la Sulamite, la Sulamite, dans le Cantique des Cantiques, est invitée à rentrer dans une quête de soi pour la paix. Alors vous me direz, où est-ce que c'est ce verset-là, etc. Eh bien... Il y a dans le Cantique des Cantiques plusieurs versets qui sont cités. « Fuis, mon bien-aimé, sois semblable à toi-même ». Chapitre 8, verset 14, c'est le dernier verset. Alors nous, on a souvent « Sois semblable à la gazelle et au fond des biches ». En fait, le terme qui est utilisé, c'est « Va vers toi-même, sois semblable à toi-même ». Et la Sulamite, il lui est demandé de sortir pour toi, pour toi. Lève-toi pour toi, va vers toi. Lève-toi vers toi-même, chapitre 2, versets 10 et 13. Ressemble pour toi, au verset 17, et j'irai vers moi-même, au chapitre 4 et au verset 6. Alors, vous me direz, on ne le voit pas quand on a la traduction dans notre Bible, mais si vous lisez la traduction d'André Chouraki, par exemple, ou si vous utilisez ce qu'on appelle les versions Strong, où on a le littéral, eh bien, on se retrouve avec cette formulation. En fait, Il y a dans plein de clés cachées dans le Cantique des Cantiques. Et certains me disaient, mais je ne comprends pas cette histoire ou cette partie-là. En fait, ce « lève-toi vers toi-même », la Sulamite, elle est invitée à faire des choix pour elle. Va vers toi, va vers ce qui est important pour toi. Ne choisis pas, ne te laisse pas emporter par la facilité. Et en fait, ça renvoie à l'appel d'Abraham. C'est un appel qu'on connaît par cœur. Quand Dieu appelle Abraham, il dit « lève-toi et va ». Mais dans le texte hébraïque, c'est « lève-toi et va vers toi-même ». C'est ce que les Hébreux sont très sensibles. L'appel d'Abraham, c'est l'appel du « lera ». Va vers toi. En fait, dans le Cantique des Cantiques, un des messages principaux, c'est que la femme est appelée à aller vers elle-même, vers ce qui est essentiel pour elle, ce qui est bon pour elle, de faire ce choix-là pour elle et de ne pas être seulement attirée, mais ne pas choisir ou d'obéir à quelque chose qui n'est pas lié à son désir à elle. La notion de désir et d'amour dans le livre du Cantique des Cantiques est très très présente. On a le droit d'avoir du désir pour ce qui est bon pour moi. Et souvent, on a gommé la notion de désir dans la vie du croyant. Tu dois obéir. Oui, l'obéissance, mais tu as le droit de désirer le meilleur pour toi. Et donc, le lech lecha, va vers toi-même. La démarche de la Sulamite, c'est d'aller vers elle-même. Et dans les derniers versets, il y a quelqu'un qui me disait, et il y a eu ce verset qui a été retenu, Salomon avait une vigne à Baal Amon. Il remit la vigne à des gardiens, chacun apportait pour son fruit 1000 pièces d'argent. Mon vignoble à moi, dit la Sunamite, c'est chapitre 8, verset 10, 12, à moi, je l'ai devant moi, devant ma face. En fait, elle est en train de parler à Salomon, et Salomon est présenté comme il avait une vigne à Baal Amon. Alors, on se dit, bon, c'est l'endroit où est la vigne. Sauf que Baal Amon n'est cité qu'une seule fois dans la Bible ici. Et que Baal Amon, ça veut dire, Baal, c'est maître, possesseur ou époux. Et Amon, vous me direz, ben c'est quoi ? Amon, ça veut dire multiple ou foule. Ça veut dire que si vous traduisez le terme de Baal Amon, ça donne épouseur de multiples. Épouseur de multiples. 80 femmes, 120 ou plusieurs centaines de Salomon, c'était un épouseur. Il avait une vigne à Baal Amon, il était un épouseur de multiples. Est-ce qu'il était à ce titre-là quelqu'un qui savait aimer ? Non. Il choisissait d'aimer tout ce qui se présentait. Et lorsqu'au verset 14, il est dit « Mon vignoble à moi, je l'ai devant moi », c'est en fait, devant ma face, semblable à moi-même. Et en fait, tout l'enjeu de l'amour qui nous est proposé, c'est d'être capable de choisir le meilleur pour soi-même. Qu'est-ce qui est meilleur pour moi ? Qu'est-ce qui est quelque part, la démarche la meilleure pour ma vie. Il y a une clé qu'on ne voit pas forcément entre la Sulamite et Salomon. C'est que les deux parlent de la même chose. Ils parlent tous les deux de choisir la paix pour leur vie. La paix. Pourquoi je dis ça ? Bah, tout simplement parce que Salomon, c'est un mot qui parle de la paix. Le pacifique, Salomon. Sulamite, c'est la même racine. Et ça veut dire la pacifiée. Tous les deux sont en quête de paix. Et ceux qui donnent la paix, chacun le cherche à sa manière. Salomon le cherche en savourant et en butinant tout ce qui se présente devant lui. La pacifiée, elle le dira dans un verset, elle cherche la paix dans ce qui est le meilleur pour elle. Elle ne va pas chercher. Et ce que Christ nous donne, ce qu'il nous apporte, c'est la paix. Recevez ma paix. À ce titre, là, la Sulamite est un modèle du croyant qui dit « Je choisis la paix ». Qui a inversé, a choisi un verset et voudrait le partager ? Agnès, qu'as-tu dit ? Tu veux bien apporter le micro ? Tape dessus pour voir s'il fonctionne. Ouais, ça marche. Vas-y, Agnès. Amen. Voilà, c'est. Alors, la question, le texte sur le verrou, c'est. Dans le texte, il semble que la main passe pour. À travers la paroi pour soulever le verrou, mais c'est vraiment celle, la Sulamite, qui va ouvrir aussi. Alors, on pense à ce texte de l'Apocalypse qui dit : Je me tiens à la porte et je frappe, et celui qui ouvrira. Donc, il y a le bien-aimé d'un côté, la Sulamite et le croyant de l'autre côté. Et comment la rencontre est permise par celui ou celle qui est à l'intérieur. C'est un peu aussi ça qui se joue. Amen. D'accord. Très bien. Merci pour ce partage. Qui a un verset choisi ? Patricia, au fond. Parle fort dans le micro.
Alors moi, j'ai choisi un verset de chapitre 4, le verset 9, qui me fait perdre le sens, ô toi, ma sœur, ma fiancée, qui me fait perdre le sens par un seul de tes regards, par un seul de tes joyaux suspendus à tes colliers. Et c'est en fait parce que ce verset m'a fait découvrir une dimension de l'amour de Jésus pour moi et pour l'Église. Et en fait, je le savais, mon frère, mais là, en fait, ça se dit le fait que je suis du coup sa sœur. Mmh. Ça me touche, comme la parole un peu de ce matin. J'avais pas forcément imaginé Jésus étant ému, étant touché, étant fortement impressionné par moi ou par nous de l'Église. Ça m'a vraiment sorti de l'Église.
Amen. Amen. Quelqu'un a encore choisi un verset ? Heinz ? Aussi, mais ça enregistre. Pourquoi ce verset ?
C'est la tradition d'Arlie.
Ouais.
Je répète, comme le lys entre les épines, tel est mon ami, contre les épines.
Donc c'était au milieu d'un environnement hostile, difficile, celui que j'aime ou celle que j'aime est semblable à un lys. Amen, amen. Merci pour ce texte-là. Pour continuer, on passe à la suivante. La lecture allégorique, on était sur une lecture de la bien-aimée, vis-à-vis de la position de la femme par rapport à son bien-aimé, de la tentation qui lui est faite d'appartenir au roi, et puis ça. Mais dans la lecture allégorique, donc, on est dans cette lecture où il y a le croyant qui est l'objet de l'amour de Dieu. Et puis, comment le tentateur peut venir pour nous détourner de ce qui est bon pour nous. Et il y a cette phrase des cœurs dans le chapitre 7, verset 1. « Reviens, reviens, reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse des deux cœurs ?» En fait, il s'agit ici d'une scène où on suppose que c'est une description de la Sulamite qui danse pour Salomon. Donc la danse des deux cœurs, c'est une danse qui semblerait être une danse, disent les Juifs, où deux groupes se font face. Vous savez, c'est une danse un petit peu folklorique, où deux groupes se font face, et puis il y a deux parties qui se croisent, etc. Donc il est dit « reviens, reviens ». Mais au niveau allégorique, on pourrait dire que la Sulamite est appelée à revenir vers ce qui est bon pour elle. Et c'est un appel, là aussi, le « revenez, revenez à moi ». On le retrouve beaucoup dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qu'on appelle à revenir vers ce qui est bon pour nous-mêmes. « Reviens à moi ». Alors, sur la suivante, on a, dans la lecture allégorique, trois confessions. « Mon bien-aimé est à moi ». Deux fois, on a « je suis à mon bien-aimé ». Et « je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi ». J'ai mis la traduction d'André Chouraki parce que en hébreu et en français, c'est parfois difficile. Lui, il traduit « moi à mon amant et sur moi sa passion ». Et le mot « passion », en français, il a deux sens. Hein, c'est la force des sentiments, une passion amoureuse, mais aussi la passion du Christ, c'est-à-dire qui va jusqu'au bout de son amour. Et je trouve beau cette possibilité de confusion quand on parle de l'amour de Dieu qui est une passion pour moi et sur moi sa passion. Puis j'ai envie de dire, c'est bien aussi de penser que Dieu nous a aimés et nous aime passionnément. Souvent, on parle de l'amour comme quelque chose, comme un sentiment. Michel dit souvent, le sentiment. Et quelque part, l'amour n'est pas seulement affaire de sentiments. Hier, j'avais une préparation au mariage avec deux jeunes gens et je suis émerveillé de voir que dans l'échange que nous avions, ils ne parlaient pas de sentiments. Ils parlaient d'amour. Et cet amour qui fait qu'ils font le choix de faire alliance. Et j'ai envie de dire que dans l'approche allégorique du Cantique des Cantiques, il est question de cela. Dieu veut faire alliance avec moi parce qu'il m'aime passionnément, avec passion. Et je dirais que ces trois confessions, mon bien-aimé est à moi. C'est-à-dire que l'autre peut être à moi. Et moi, je suis à lui. Je lui appartiens. Alors, c'est pas seulement spirituel. Hein. L'apôtre Paul parlera de la sexualité en disant que soyez aussi à l'autre dans le lien conjugal, c'est-à-dire d'appartenir quelque part, de s'abandonner, de pouvoir se donner. Il est à moi et je suis à lui. Et ses désirs se portent vers moi. Les désirs de Dieu se portent vers moi. Il a du désir pour moi. On l'imagine bien, cette notion de désir, dans le rapport entre l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, mais Dieu a du désir pour moi. Alléluia. Qui a une parole encore inversée? Michel, tu n'as pas choisi? Ah, attends, alors, le micro. Le micro arrive, puis après on passera à Marie-Vonne.
Pour la, sans concertation préalable, j'ai choisi le même verset que Laurence, donc « Des grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeront pas ». Alors par contre, ma réflexion va un peu plus loin. Donc effectivement, j'ai pensé aussi à l'épître aux Romains, parce que rien ne peut éteindre l'amour que le Père nous porte en Jésus, mais goutte après goutte, la routine, les soucis et nos activités effrénées peuvent noyer l'amour que nous portons au Seigneur. Donc veillons.
Amen. Amen. Voilà un autre regard à partir du même texte. Marie-Vonne, je crois que voulait aussi lire son verset. D'accord. Amen. Amen. Alors, qui est-ce qui a, est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient lire leur verset? Ah bah tiens, on va. Ah, il y a Daniel. Alors, je vous mets un petit peu en stand-by. Cassidy, tu viens parce que c'est les deux personnes qui sont juste derrière ta rangée. Je voudrais juste passer à la diapo suivante. C'est ce verset qui, pour moi, dans le Cantique des Cantiques, a été à l'initiative un petit peu de mon cheminement de pensée. C'est « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » Et en fait, je ne peux pas, à partir du verset 6 du chapitre 8, ne pas mettre cela en relation avec l'amour de Christ. Lorsqu'il est dit « Mets-moi comme un sceau sur ton corps, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort », je dirais, il y a un amour qui est allé jusqu'à la mort, c'est celui de Christ. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Là, dans ce verset de Paul aux Corinthiens, il y a ce sceau dont il est parlé. Ce sceau, il est lié à la vie que Christ a donnée pour nous. C'est cela qui marque notre cœur. C'est ça qui fait que nous lui appartenions. Et il n'y a pas autre chose qui nous fait appartenir à Dieu, sinon la mort de Christ à la croix. Et ce sceau-là, finalement, sur le cœur, moi j'aime beaucoup ce verset, ça veut dire que tout ce que je vis intérieurement est appelé à être marqué du sceau de Christ. Après, on peut parler de sanctification, de transformation, etc., etc. Mais tout ce que je vis au niveau de mon être intérieur est appelé à être marqué de ce sceau-là. Et là, je fais référence à Guggenheim, qui était le président du judaïsme dans les années 80-90, qui disait « La religion juive est par essence une religion d'action et de faire. » Il dit « Avant d'être une vie de prière, on est appelé à agir comme appartenant à Dieu. » Et moi, je retrouve bien cela dans ce verset du Cantique des Cantiques, hein, « Maître, ton sceau sur mon bras. » C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce en quoi j'agis, doit être marqué du sceau de Dieu. C'est-à-dire que je balaye des feuilles mortes dans un parc, que je travaille avec des collègues pour la communauté de communes ou autre, que j'agisse dans tel ou tel domaine, tout ce que mon bras fait doit être marqué par le sceau de Dieu. Deux Corinthiens 1. Ok. Voilà pour cette pensée. Cassidy, tu peux donner à Daniel?
Non, moi je ne voulais pas donner mon verset, mais finalement, au vu de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai raconté, moi j'ai le Cantique des Cantiques 3, verset 2. Je chercherai celui que mon cœur aime. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et en fait, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, parce que pour moi, l'amour sur cette terre, c'était donner. Et en fait, Jésus ne nous demande rien. Tout est gratuit.
Amen. Et voilà, Amen. Et puis, tu as dans ce même verset, « Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. » C'est aussi, là aussi, la notion de l'amour tel que Dieu Satan dans l'alliance qu'il tisse avec nous. Je vais le saisir et je ne le lâcherai plus. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à saisir Christ ? Parce que lui, quand il me saisit, il ne veut pas m'abandonner. Et il ne se lassera pas. Je connais dans ma vie, ces 45 ans de vie avec le Seigneur, des personnes qui se sont éloignées. Je sais une chose par essence, jamais Christ ne s'est lassé d'aller chercher celui qui s'est éloigné. Jamais, jamais. C'est vraiment un témoignage. On peut s'éloigner, mais jamais il ne n'abandonnera et ne lâchera le morceau en disant « bon, bah, il est parti, il est parti ». Parfois, c'est ce qu'on peut avoir comme attitude vis-à-vis de certaines personnes. Christ ne se lassera pas d'aller nous chercher. Je l'ai saisi, alors mon amour pour lui, ça doit être aussi « je ne le lâcherai plus ». À toi.
Et ce verset fait référence à la Sulamite, mais en tant que femme, son identité est féminine. Et là, il y a le fait qu'ensuite, il est dit que, à ses yeux, qu'elle était à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Et je pense que c'est vraiment quand on trouve un équilibre entre la protection de son intérieur et pourtant l'ouverture vers l'extérieur et qu'on soit attentif à l'extérieur. C'est là qu'il y a une certaine paix et cet équilibre est différent pour chacun. Et c'est là qu'il y a une certaine paix qui peut s'inscrire.
Amen, amen. Alors quelqu'un me disait, je ne comprends rien cette histoire de petite sœur. Hein, puisque au verset 8 du chapitre 8, il est dit, nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de poitrine, qui n'a pas de sein. Puis après, il est parti au verset 10, on a l'impression que c'est la Sulamite qui reprend la parole. Ben oui, parce qu'en fait, le verset 8 et 9, dans le judaïsme, il est considéré comme une comptine juive. C'est en fait une de ces chansons qu'on chantait au mariage. Donc, et ça parle en fait du rôle des frères quand ils ont une petite sœur, c'est de la protéger. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où l'on parlera d'elle ? C'est-à-dire quand elle commencera à sortir, à être en rapport. Eh bien, si elle est une muraille, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. C'est-à-dire qu'on va la protéger. Si elle est une porte, nous disposerons sur elle une planche de sède pour pas que personne vienne la blesser ou rentre dans sa vie. Et la Sunamite reprend, je dirais, à la suite de cette comptine, qui est une comptine de mariage. Elle dit, bah, moi je suis une muraille et mes seins en sont comme les tours. Aussi ai-je été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. En fait, la formulation hébraïque de ce verset, ainsi aussi ai-je été à ses yeux comme celle qui trouve la paix, l'hébreu dit en fait comme celle qui a été laissée en paix. C'est-à-dire qui a laissé tranquille. C'est-à-dire que Salomon, du fait de ma prise de position, de mes murailles à fermer, il m'a laissé en paix. Moi, ma mère utilisait beaucoup ce verset. Ouais, elle me disait « fiche-moi la paix ». Je pense que ça voulait dire ça aussi. Mais là, la Tsunamite a dit « J'ai été laissé en paix, j'ai été laissé tranquille parce que je suis allé vers moi-même et que j'ai su dire ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. » Et finalement, pour Salomon, ça a été, comme on dit, une fin de non-recevoir. Voilà une balade que je vous ai proposée dans ce livre du Cantique des Cantiques. J'espère que vous y avez trouvé du plaisir. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir choisi des versets. Je vais... Moi, alors, je n'ai pas dit mon verset à moi. Mon verset à moi, c'est celui-là. C'est « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Il est des tatouages. » Alors, j'ai repris le début de mon cheminement. « Il est des tatouages qui marquent la peau et disent un peu de nous. Il est une marque plus signifiante, celle qui marque notre cœur et notre bras, notre amour et nos actions. » Un sceau d'amour fort comme la mort, celle voulue et acceptée sur la croix. Ça, c'est mon verset. Puis j'ai... Alors, je vais faire une chose. J'en ai fait peut-être pas assez, mais 6 de plus. Il y a une boîte qui est là. Cassidy, je peux te remobiliser ? Tu peux aller chercher la boîte ? Voilà. Et puis, on va faire quelque chose. Voilà. Vous allez tous mettre ceux qui ont choisi des versets. Mettez vos versets dans la boîte. D'accord ? Voilà. Tiens, moi, j'en ai plusieurs. Hein ? Voilà. Voilà. Allez-y, tiens. T'en as encore un là. Et puis, on va secouer la boîte. Et puis, Cassidy va repasser parmi vous. Vous mélangez un petit peu pour ne pas reprendre votre verset. Si c'est celui-là, vous le remettez, vous en reprenez un autre. Et puis vous repartez avec un autre verset que celui que vous avez choisi, puisque vous en avez eu un petit peu l'explication et les prémices. D'accord ? C'est bon ? Voilà. Je vais laisser Cassidy, puis après, on va prendre la scène, et puis on va laisser la place peut-être à Elisabeth. Elisabeth, qui va nous lire...